La mêlée de l'info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric Dupri. La mêlée de l'info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric Dupri.
Bienvenue sur Radio Présence à l'écoute de la mêlée de l'info et de nos débats consacrés aux sujets qui occupent la une de l'actualité nationale. Voici celles qui ont accepté de participer à cette émission. Je salue Marie-Christine Monnoyer, professeure des universités, membre de la chaire Jean Rodin à l'Institut catholique de Toulouse. Et je salue le retour à la mêlée d'Alexandra Leliette, adjointe au maire de Toulouse, déléguée territoriale du Modem Haute-Garonne. Bienvenue à toutes les deux et merci d'avoir accepté mon invitation. Dans l'actualité récente, il y a les mesures annoncées mardi par Sébastien Lecornu pour compenser la forte hausse des prix des carburants consécutive au conflit au Moyen-Orient. Il s'agit globalement d'une nouvelle aide ciblée pour ce qu'on appelle les grands rouleurs et du renforcement des mesures déjà existantes pour soutenir les pêcheurs et les agriculteurs. Ces annonces s'inscrivent dans le cadre d'un plan de soutien à l'activité. Elles concernent 3 millions de travailleurs modestes dits grands rouleurs avec une réduction moyenne de 20 centimes d'euros par litre. D'autre part, Sébastien Lecornu a adressé un courrier à ses ministres pour leur demander 4 milliards d'euros de mesures supplémentaires de freinage de la dépense, je le cite, et ce afin d'absorber les conséquences de la guerre au Moyen-Orient. Les répercussions de celle-ci sur notre économie sont estimées à ce jour à 4 à 6 milliards d'euros. Il a précisé vouloir mettre en œuvre des mesures de précaution à la hauteur de ce choc sur les dépenses de l'État et des administrations de la sécurité sociale. Pour ce que vous en connaissez, les mesures annoncées par le Premier ministre vous semblent-elles répondre aux attentes des citoyens et notamment à ceux exerçant les professions qu'elles concernent? Et puis, que vous inspire la nouvelle cure d'austérité qui se profile dans les dépenses publiques? On commence avec Marie-Christine Monnoyer.
D'abord, bonjour, bien sûr. Et j'ai envie de répondre à votre question par un biais. Parce que les conséquences du conflit au Moyen-Orient sont extrêmement multiples. Et en fait, elles ne concernent pas uniquement l'évolution du prix de l'essence ou l'évolution du prix du gazoil. Et je crois que pour répondre à la question que vous avez posée, il faut d'abord avoir tout cela en tête. Je me suis amusée, en pensant à la mission d'aujourd'hui, à essayer de recenser quelques-uns des points qui affectent la situation économique française au-delà de la question des grands rouleurs. Alors, j'ai pris des exemples qui peuvent peut-être paraître un peu bizarres, mais par exemple, un point qui m'a beaucoup frappé, c'est l'augmentation du prix de la tonne de bitume. On marche tous sur du bitume. Ça fait, bien sûr, c'est une matière première, enfin un peu travaillée bien sûr, qui est utilisée au quotidien. Le 1er avril, on était à 200 euros la tonne, on est à 640. Évidemment, ça change tout pour tous ceux qui utilisent du bitume, qu'ils travaillent, qu'ils produisent, etc. Si je regarde un autre point qui évidemment est bien connu de la part du Premier ministre, tous les premiers jeudis du mois, la France emprunte de l'argent pour rembourser ses dettes. C'est comme ça tous les premiers jeudis du mois, puisque sur le budget français, on ne rembourse en fait les dettes qu'en en empruntant, en en faisant de nouvelles, puisqu'on n'a pas les moyens de rembourser nos dettes. Alors, le 2 avril, c'était le premier jeudi du mois, le ministère des Finances a levé 2,5 milliards d'euros pour rembourser 2,5 milliards d'euros qui étaient des dettes à moyen et à long terme. Le petit problème, c'est que le taux d'intérêt, qui le mois précédent était de 3,39, est passé à 3,73.
Oui, oui.
C'est-à-dire 0,4% de plus sur un taux à 3%, c'est beaucoup. Ça veut dire que, ça a été dit un petit peu doucement, mais il faut le rappeler, le poids de la dette est devenu le premier budget de la nation. Devant l'éducation nationale, et donc le prof que je suis, ne peut pas s'empêcher de trouver que c'est un petit peu lourd. Alors si je dis tout ça, c'est pour montrer, et bien sûr je peux en citer d'autres, mais bon, c'est pour montrer qu'en fait, à très court terme, nous allons tous être très impactés par la situation. Et pas uniquement les grands rouleurs, et pas uniquement les agriculteurs, et pas uniquement les pêcheurs. Donc, est-ce que pour chacun d'entre nous, pour chaque activité, on va devoir trouver une solution pour compenser le problème qui se pose? Alors, bien sûr, je ne peux être que sensible et d'accord avec l'idée que les grands rouleurs, comme on les appelle, et en particulier ceux qui, étant grands rouleurs, sont petits budgets, il est certainement indispensable de les aider, sinon ils ne vont pas réussir à effectuer leurs activités. Mais bon, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Le problème, c'est comment on va faire, et toutes les questions que pose, alors, à court et moyen terme, cette question de la guerre au Moyen-Orient et de ses impacts sur, entre autres, le prix du pétrole, mais pas que. Hein. Et puisque le pétrole, c'est le plastique, c'est...
Ah bah c'est utilisé pour
tout le monde. Voilà, c'est utilisé pour tout le monde. Les Grecs sont en panique en disant on ne va pas avoir de touristes cet été. Les Espagnols y pensent aussi. Bon,
et la France aussi.
Et la France aussi. Mais la France se dit... Oui, mais la France se dit, les Français vont rester là et donc, dans certains cas...
Ça va compenser.
Cas, ouais. Voilà, ça va un peu... Ça ne va pas tout compenser, mais...
Mais même les Français vont moins se déplacer, hein.
Voilà. Donc, cette question-là, elle est absolument gigantesque et elle pose, bien sûr, le problème de notre dépendance par rapport aux énergies. Elle pose aussi le problème de notre position politique par rapport aux décisions qui sont prises par les États-Unis et par Israël. Et donc, on va sans doute y revenir puisque la deuxième question n'est
deuxième
pas...
Sujet, oui.
Voilà, c'est le deuxième sujet. Mais... Donc, ça veut dire que lorsque j'entends qu'il faut faire 4 milliards d'économies, ça ne m'étonne pas. Parce qu'en fait, il va bien falloir, à un moment ou à un autre, compenser en particulier ce surcoût de la dette.
Oui, la charge de la dette augmente en plus chaque année. C'est-à-dire qu'on emprunte de plus en plus, mais plus à des taux d'intérêt supérieurs à ce qu'ils étaient
avant. Et maintenant, le fait que ça soit devenu le premier budget... Alors, ma voisine... du MoDem, je me souviens très bien des positions de M. Bayrou sur la question de la dette, mais ça pose vraiment un problème. Alors, on va chercher des économies sociales, on va chercher des économies fiscales, on va chercher, etc.
Dans certains services de l'État.
Voilà, vous n'avez pas manqué de regarder la position de certains partis politiques qui disent « il faut aller devant le Parlement pour faire ce qu'on appelle un collectif budgétaire ». Je me souviens qu'Emmanuel Macron a un très très mauvais souvenir d'un certain collectif budgétaire qu'il avait voulu, qu'il n'avait pas accepté de la part de son Premier ministre de l'époque. Donc au fond, on est dans une situation critique.
Oui.
Et de ce fait, il va falloir trouver des sous par de multiples moyens.
Alors, après cette première intervention très complète, très détaillée, très argumentée, Alexandra Leliette, donc sur les deux questions que j'ai posées, d'abord sur ce qu'a annoncé Sébastien Lecornu pour compenser la hausse du prix des carburants pour donc certaines professions, les gros rouleurs, et puis sur les annonces qui sont venues derrière, sur le fait qu'il va falloir encore trouver des mesures supplémentaires, je reprends son terme, de freinage de la dépense, c'est assez amusant, dans le budget de l'État. Quelles sont vos réactions et position d'une certaine manière.
Je rejoins évidemment l'exposé de ma voisine sur cette réponse qui était malheureusement nécessaire pour amortir un choc immédiat. Mais ce à quoi on assiste de plus en plus souvent, c'est du correctif encore et encore. Et du correctif coûteux. Indispensable, puisque là on parlait des plus précaires, on parle aujourd'hui donc plutôt des travailleurs les plus précaires, mais c'est nier aussi d'autres besoins de personnes qui vivent en dehors des grandes métropoles et qui ont besoin de se déplacer, qui n'ont pas la chance d'avoir, comme nous à Toulouse ou dans d'autres grandes villes de l'Occitanie, des transports en commun effectifs. Et c'est vrai qu'il y a ce besoin de se déplacer pour aller travailler, mais se déplacer, c'est aussi pour pouvoir vivre ensemble,
aller
pour
faire
pouvoir
courses,
aller faire ses courses,
aller voir son médecin,
pour aller se promener, pour aller également profiter de la culture. Donc là, on répond avec un pansement à un besoin immédiat et impérieux. Mais encore une fois, on n'a pas de vision à long terme. On ne répond pas à cette dépendance du pays aux énergies fossiles, comme vous nous l'aviez dit, alors même qu'il y a ce besoin économique, et on est aujourd'hui face à une urgence climatique qu'il ne faut pas nier. Donc on va avoir à faire un budget correctif, aller chercher des économies. Évidemment, je ne vais pas dire que je m'en satisfais en tant que représentante du MoDem, mais ça va dans le sens de ce que François Bayrou appelle de ses voeux et ce pourquoi il a milité depuis de très longues années. C'était au cœur de son programme d'ailleurs des présidentielles de 2012. Cette urgence, elle est réelle et elle a besoin. Ce n'est pas un besoin simplement salvateur, c'est un besoin de souveraineté. On ne pourra défendre notre souveraineté qu'avec un budget qui sera plus pérenne et qui sera plus stable et plus sain. Et on parle également des générations futures. Alors on va, quand on discute des budgets, chercher évidemment à lever pour certains les contraintes qui pèsent sur les Français. Mais j'ai envie de vous dire, si ça ne pèse pas sur les Français, ça va peser sur qui? Ça va peser sur les Américains? Ça va peser sur les Chinois? Ça va peser sur les Japonais? Non, on va devoir aussi avoir ces contraintes. Et les contraintes, ce sont également celles au bénéfice des générations futures, parce que lorsqu'on fait des promesses pour la jeunesse en lui promettant, je reviendrai sur ce budget qu'on avait eu en début d'année sur les repas pour les étudiants à 1 euro, sans condition de revenu des parents, un repas à 1 euro offert aujourd'hui, c'est un repas qui va vous coûter plus tard. Ça n'existe pas, les repas gratuits, et donc il en va de notre
responsabilité. D'ailleurs, la gratuité, ça n'existe pas non plus. Il y a toujours quelqu'un qui paye, hein, ça. Il faut se mettre ça en tête, n'est-ce pas?
Non, je voulais également revenir quand même sur cette lisibilité qu'on doit avoir. On parle de brutalité aujourd'hui politique dans les décisions et dans les coupes qui sont faites. La véritable brutalité aujourd'hui, c'est celle de cette brutalité budgétaire. Et la véritable lisibilité politique, c'est celle des compromis et des arbitrages qui doivent pouvoir être expliqué et compris de nos Français. François Bayrou, alors Premier ministre de la France, avait entamé cet exercice de pédagogie avec des premiers résultats. Et je pense qu'il va falloir qu'on continue encore pendant quelques temps. Moi, j'ai tout à fait confiance dans la responsabilité des Français à entendre cela. Et j'aimerais que nos responsables politiques aient la même responsabilité et raison que les Français.
En parlant de pédagogie, d'explication sur ce que le gouvernement pourrait être amené à faire, il y a le ministre de l'économie qui est a priori le mieux placé hein, pour parler de ces sujets-là, Roland Lescure. Lui, il estime que le budget de l'État pourrait être amputé, ce sont ces termes de 4 milliards d'euros et celui de la sécurité sociale de 2 milliards, mais il a précisé on ne va rien annuler, mais on peut être amené à prendre des mesures de précaution, il reprend ce terme de précaution, on gèle des dépenses, on peut les dégeler si ça va mieux. Donc, comprendre, comme, suivant la façon dont va évoluer le conflit au Moyen-Orient et ses conséquences, mais il a prévenu tout de même que toute dépense publique nouvelle qui pourrait être rendue nécessaire par la crise énergétique, entraînerait une annulation d'une dépense qui était prévue à l'euro près. Donc ce qu'on donnera d'un côté, ben, on va le reprendre de l'autre. Donc on va peut-être donner à certains et reprendre à d'autres. Et ça, toujours afin de tenir les objectifs du budget 2026. Qu'est-ce que vous pensez de cette communication? Parce que la forme, ça compte un peu quand même. Le fond, c'est bien, mais la forme, ça compte aussi. Alors là, on a l'impression qu'il veut être rassurant et tout à fait transparent. Mais est-ce qu'il atteint son but? Est-ce qu'il est rassurant, Roland Lescure, en s'exprimant de la sorte?
Je crois qu'il est difficile qu'il soit rassurant. Il est difficile qu'il soit rassurant parce que nous avons une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Cette épée de Damoclès, c'est que en 2024, on avait une dette à 5,8 du produit intérieur brut.
Ouais, PIB, hein.
On a réussi à la baisser à 5,1 en 2025. Et en fait, si on n'y arrive pas à la poursuivre en 2026, on est hors des clous par rapport à tous nos collègues de l'Union européenne. Donc en fait, il ne peut pas être rassurant. Ce qui est... moi, je pense qu'il y a... Cette histoire de la pédagogie, elle doit être faite de façon un peu plus simple. Vous voyez, tout à l'heure, si j'ai pris l'exemple du coût du bitume et du coût de la dette, eh bien, il faut aller vraiment dans les détails. Parce que on a bien compris qu'à l'occasion d'un problème comme celui que nous vivons, toutes les activités sont impactées. Par exemple, j'ai entendu qu'il y allait peut-être avoir une nouvelle discussion entre les supermarchés et les producteurs, alors que la décision, les accords ont été pris au 1er mars. On n'est quand même que le 23 avril. Et donc déjà, en un mois et demi, ça ne marche plus. Ça veut dire que tout est impacté. Donc, en fait, la première chose, c'est sans doute que chacun des citoyens français se rende compte de la complexité de la situation et du fait qu'il n'est pas tout seul à souffrir, qu'on est tous à avoir des conséquences sur ce qui se passe et des conséquences qui peuvent être particulièrement lourdes pour certains, mais qui sont lourdes, qui sont compliquées pour tout le monde. Vous avez dit, on a tous besoin de se transporter pour travailler, pour aller chercher ses enfants à l'école, pour aller chez le médecin, pour profiter un petit peu de la vie, etc., etc. Tout ça, c'est impacté. Donc, en fait, il faut qu'on le comprenne et qu'on se dise pas qu'on est plus malheureux que son voisin et que dans ces conditions, comme disait un certain président Kennedy, qu'est-ce que je peux faire dans cette situation-là? Et ce que je peux faire, eh bien, il y a de multiples actions. Alors, ce qui m'impressionne, et Madame disait tout à l'heure, j'ai confiance dans la réaction des Français, on a vu combien un grand nombre de Français s'étaient dit « Pourquoi est-ce que je ne pense pas aux panneaux photovoltaïques depuis si longtemps? Pourquoi j'en parle? Pourquoi je ne m'y mets pas? Pourquoi est-ce que, si ça est dans mes cordes, je change ma voiture? Pourquoi est-ce que je prends toujours la voiture alors que je pourrais très bien marcher un peu à pied? Pourquoi est-ce que je prends des sacs plastiques alors que le plastique va augmenter? Pourquoi est-ce que je fais venir ma pizza sur un gars à vélo alors que je pourrais très bien faire ma pizza tout seul ?» Tout ça, ce sont... Et en fait, Monsieur Dupont, et je suis une Madame Dupont, eh bien, on peut prendre des actions comme celle-là. Et ça serait, si cette prise de conscience du fait qu'il y a des choses qui nous tombent sur la tête et qui sont ni de la faute de Monsieur Le Cornu, ni de la faute de Monsieur le Président de la République, ni de la faute de Monsieur Mélenchon, etc. Non. C'est, voilà, le monde est compliqué, nous sommes insérés dans un collectif économico-politico, tout ce que vous voulez. Eh bien, à nous de réagir et pour éviter qu'on demande, etc., soit que l'on se dise, mais enfin, c'est un pansement sur une plaie béante. C'est vrai, c'est un pansement sur une plaie béante. Donc en fait, il faut changer le système.
Alors, ce que vous évoquez, c'est pas nouveau. Ça serait de penser à changer nos habitudes de consommation, de nous poser la question à chaque fois qu'on achète quelque chose. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Est-ce qu'on en a besoin sous cette forme? Est-ce que je peux pas le faire moi-même? Est-ce que je peux pas m'en passer, tout simplement? Sauf que derrière, si on achète moins... Moins de consommation, c'est moins de croissance. Enfin, c'est un peu le chat qui se mord la queue, Alexandra Lubiette.
Pas forcément, hein, vous ne pouvez pas dire ça.
Ouais, enfin, c'est quand même un changement de système radical. Alexandra Lubiette, je ne vous ai pas dit que j'étais contre.
Alors, pas forcément, je suis d'accord. Et je voudrais simplement revenir sur un mot. Vous savez, tous les ans, il y a le petit mot à la mode. Oui. Et moi, je vais revenir un petit bond en arrière, 2023. C'est pas si vieux que ça. Vous vous souvenez du mot délestage électrique?
Oui.
On pensait que ça allait couper. Eh bien, on n'a eu aucun délestage.
Non.
On a fait appel aux Français qui ont revu leur consommation énergétique et on n'a pas eu de délestage. Donc, je vais revenir sur
c'est les... C'est pour ça que la communication de nos élus est très importante, notamment celle de Roland Lescure, par exemple. C'est pour ça que je vais donner un exemple, parce que je ne suis pas certain qu'elle soit tout à fait adaptée.
Non, ça c'est peu dire, c'est une palissade. Mais... un budget, c'est avant tout un acte politique, ce n'est pas une gestion technique. Roland Lescure est un fin politique. S'il a fait cette déclaration, je pense que ce n'était pas vraiment aux Français qu'il s'exprimait, ça devait certainement être une adresse au marché ou aux grands investisseurs et des choses qui sont bien loin de la politique telle qu'on la souhaiterait. Quoi qu'il en soit, j'ai bonne confiance que ce gouvernement se rappelle que le budget est un acte politique, c'est un acte qui doit être débattu et surtout assumé. Le budget, c'est pas de la magie. On l'a vu il y a quelques temps, on a eu un budget adapté où au bout du compte, il n'y avait plus que des gagnants. Tout le monde était content. Alors, il y avait les cadeaux aux uns, il y avait les cadeaux aux autres. En plus, on allait revenir sous la barre des 5%. Moi, la magie, j'y crois pas beaucoup. Et malheureusement, la réalité me donne raison. Donc, on est face à une situation grave qui va demander de véritables efforts. Quand on fait des économies, ce n'est pas des économies de bout de chandelle. On doit revoir les choses en grand, la planification. Sur ces appels aux différents ministres et ministères à faire des économies, moi, je n'aime pas ce mot d'économie. Il faut repenser surtout nos budgets. L'argent, ça sert à quoi ? Qu'est-ce qu'on veut faire ? C'est pas simplement « Ah bah tiens, j'ai un peu moins, qu'est-ce que je vais pas pouvoir faire ?» Il y a des dépenses qui peuvent être revues, il y a des dépenses qui peuvent être plus efficaces. On parlait par exemple de ces correctifs vers les plus démunis, c'est quelque chose d'important. Et dans le même temps, est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on va combattre la pauvreté, la précarité ou autre? Ben non, parce qu'on sait que l'un des enjeux majeurs, c'est celui du « aller vers ». On sait qu'il y a beaucoup de personnes dans le besoin qui ne recourent pas aux aides auxquelles elles ont droit. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit repenser généralement. Quand on parle de simplification, c'est pas simplement la simplification des normes pour abîmer un peu plus l'environnement, c'est la simplification des démarches pour les Français, je pense, qui doit être la plus importante, et surtout en perspective des grands enjeux nationaux, internationaux et mondiaux. Les enjeux de la France par rapport à sa dette, les enjeux internationaux et européens, je pense notamment au budget de la défense sur lequel on ne peut pas rogner, et au contraire, il va falloir qu'on mette davantage, et les enjeux mondiaux, climatiques et de paix. Vous savez que j'aime bien toujours aller chercher une petite référence historique.
Oui.
Pierre Mendès-France insistait sur la nécessité de dire la vérité au pays et de rendre les choix compréhensibles. Donc, s'il vous plaît, Pierre Mendès-France, viens nous sauver.
Pour une fois, on ne va pas chercher le général de Gaulle. Pierre Mendès-France. Alors, je reviens à ces histoires de budget et des pistes pour trouver ou des économies ou aussi des nouvelles recettes, parce que ça, il n'en a pas vraiment été question dans l'intervention de Sébastien Lecornu. Et évidemment, à gauche, au Rassemblement national, on se plaint que ce soit encore les citoyens, notamment les plus défavorisés, qui vont devoir se serrer la ceinture pour maintenir les objectifs du budget 2026, parce que, par contre, ce qui a bien été dit, c'est qu'on ne toucherait pas aux dépenses prévues dans le domaine de la défense, tous les investissements qui ont été prévus dans ce domaine. Alors, il y a une étude de Greenpeace qui annonce que les géants pétro-gaziers européens auraient encaissé 2,5 milliards supplémentaires pendant le seul mois de mars, avec ce qu'on appelle des super bénéfices. Et certains demandent une fois de plus, à ce qu'on les taxe, ces super bénéfices des entreprises en question. Est-ce que c'est pour vous une question qui mérite d'être posée ou est-ce que c'est complètement hors de propos compte tenu de la situation que nous avons aujourd'hui, en l'état des choses?
À mon avis, c'est évidemment une question qui mérite d'être posée. Étant donné qu'on a besoin de beaucoup d'argent et qu'au fond, les chiffres des super bénéfices des pétroliers ont été... Ils sont liés à une analyse fine de l'activité. Bon, ils ont gagné beaucoup d'argent parce qu'ils ont été futés. Mais c'est pas pour autant qu'ils ne devraient pas partager un petit peu avec, pour résoudre un peu nos difficultés. Mais il n'y a pas que. On sait aussi que la question de l'évasion fiscale est toujours extrêmement importante. On sait aussi que les plus favorisés payent en pourcentage moins d'impôts que la classe moyenne. Donc tout ça, il va bien falloir qu'un jour on le mette sur la table. Et ce qui peut être surprenant, c'est que ceux qui sont favorables à ce type de décision ne sont pas forcément ceux qui crient le plus fort ou ceux auxquels on pourrait penser que ce soit eux qui parlent. Donc ce sont des points fondamentaux. Ce sont des points fondamentaux parce que le système s'est déréglé. Il s'est déréglé au profit des plus fortunés, il s'est déréglé sur le plan international. Quand on voit la richesse des milliardaires de la Californie à cause de la façon dont on ne régule pas les réseaux sociaux, etc., le système s'est déréglé. Donc quand le système se dérègle, ben on fait comme en mécanique, on sort ses tournevis et on regarde et on essaye de re-régler.
Et on serre les vis. Alexandra Leliette, vous taxez les super bénéfices des...
J'aime beaucoup cette image. Alors moi, comme vous le savez, je suis pas une grande adepte de la fiscalité à tout va et ce n'est certainement pas l'alpha et l'oméga. Et dans le même temps, cette question de la contribution des entreprises, elle est légitime. Ce qu'on voit, c'est que dans un marché ouvert, une politique fiscale isolée, c'est inefficace.
Donc, oui, mais on peut très bien travailler à plusieurs.
Eh bien, tout à fait. Et je vous remercie pour cette transition, parce que sans surprise, moi, cette régulation...
Et je vois où vous allez en venir.
Voilà, c'est au niveau européen. Pour moi, cette Europe, elle doit retrouver sa place. Cette place d'une Europe qui protège et qui régule efficacement. Donc, elle ne pourra être traitée sérieusement cette question du super-profit qu'à l'échelle européenne, sinon on prend le risque de mesures inefficaces et contournées.
Alors, moi, je suis d'accord, mais je ne peux pas m'empêcher de dire quelque chose. Que ce soit les Italiens, les Espagnols, les Allemands, les Français, tous, ils sont allés voir la Commission européenne en disant « aidez-nous à taxer les plus riches ». C'est quand même marrant qu'il faille, au fond, il faut... On ne peut pas le faire tout seul, on ne peut pas lancer la balle, il faut qu'on y aille. Alors, bien sûr, plus on est de fous, plus on rit, et plus on est, et plus on s'entend au niveau européen, c'est bien. Mais on est encore en train de se demander pourquoi est-ce qu'on ne lance pas la mécanique. Et je suppose que l'Europe va réagir et va proposer... Et ça aidera tout le monde d'avoir une nouvelle orientation en ce qui concerne justement soit l'imposition des plus fortunés, soit l'imposition des GAFA et autres, ce qu'elle a déjà commencé à faire.
Alexandra Leliette, qu'est-ce que vous pensez du point que vient de soulever Marie-Christine Monnoyer? Vous êtes d'accord avec elle? C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin d'attendre que ce soit la Commission européenne qui fasse les choses. On peut lancer la balle, je reprends son expression, plutôt que d'attendre.
Alors oui, on peut lancer, mais il faut qu'on s'assure, au moment où on va se retourner, d'être suivi. Et aujourd'hui, les conditions ne sont pas véritablement là pour avancer et tout d'un coup se retrouver tout seul au milieu du champ de bataille. On doit s'assurer cette union, peut-être dans une Europe resserrée, plus politique, avec un plus petit cercle, comme on l'a fait sur la taxe sur les transactions financières, la taxe Tobin, sur laquelle on a pu avancer hors méthode communautaire pour lancer l'élan, mais on doit partir avec quelques gouvernants européens. Je pense que nous avons aujourd'hui des dirigeants qui sont certes un peu pris en tenaille entre des dérives populistes d'extrême droite et d'extrême gauche, mais qui ont le courage politique. Je pense au chancelier allemand qui n'avait pas hésité à changer ses élans de dépenses sur la défense, aller chercher des alliés pour aller en avant plus rapidement et cranter quelque chose, oui, je partage votre avis.
Alors, je reviens à nos politiques, et toujours à gauche, et Éric Coquerel, lui qui s'est montré, on pouvait s'y attendre, hein, très critique concernant l'ampleur des coupes annoncées par Sébastien Lecornu. Il a déclaré que, selon lui, elles auront un effet récessif garanti sur l'économie, la croissance et les rentrées fiscales, et que ce choix est injuste et stupide économiquement. Il estime que l'Assemblée nationale a le droit d'en débattre et de demander un projet de loi de finances rectificative, ce qu'on appelle comme ça en tout cas. Alors, est-ce que vous les entendez, ces arguments, s'agissant des conséquences sur l'économie et la croissance en France? Et est-ce qu'on se dirige une fois de plus vers des débats qu'on peut imaginer houleux une fois de plus à l'Assemblée, avec l'hypothèse d'un nouveau 49-3 dans les semaines à venir? Marie-Christine Monnoyer.
Écoutez, je crois qu'on a trop vu les responsables de l'Assemblée nationale se bagarrer comme des chiffonniers pour qu'on arrive à un budget, pour qu'on ait envie de dire, eh bien, on repart,
de remettre une pièce dans la machine.
On repart comme en 14 et on écoute. C'est vrai que ce type de discussion devrait passer à l'Assemblée nationale. Oui. Intellectuellement, c'est vrai.
C'est le
démocratiquement,
lieu.
C'est vrai. Sauf que pour l'instant, eh bien, nos représentants à l'Assemblée nationale ne nous ont pas donné confiance dans leur capacité à se mettre d'accord. Et franchement, là, on a un budget, on ne va pas complètement le fiche en l'air parce que M. Coquerel a proposé cela.
Alexandra Leliette, vous êtes d'accord? Ce n'est pas la peine, comme je le disais, de remettre une pièce dans la machine.
Alors moi, je suis partagée parce que vous connaissez mon attachement fort au parlementarisme. Je suis vraiment persuadée que ces démarches nécessitent un débat au Parlement, auprès des représentants du peuple français. Et dans le même temps, le cœur du problème, il n'est pas institutionnel, c'est surtout l'absence de majorité stable.
Oui. La représentativité actuelle à l'Assemblée fait que...
Le vrai problème, c'est pas le 49-3, c'est notre capacité collective à construire des compromis dans un Parlement fragmenté. Moi, c'est pour ça que j'en appelle vraiment la responsabilité des parlementaires et j'en veux à certains d'entre eux qui, dans le dernier mètre, il y a quelques mois, ont préféré faire ce qu'il y a de plus facile dans ce pays, à savoir de la dépense publique à l'aveugle et choisir la facilité collective, choisir la lâcheté budgétaire au compromis collectif.
Alors, on parle du budget 2026, mais il va être rapidement question du budget 2027. Il en est déjà question. Et bon, on sait qu'on veut poursuivre l'effort de réduction de la dette. Là, on est à 5,1% du PIB pour 2025. On verra pour 2026, mais il faut continuer cet effort. Normalement, l'objectif, c'est 3%, hein, comme chacun sait. On nous annonce d'ores et déjà une nouvelle cure d'austérité dans les dépenses publiques, hein, qu'il faudrait réduire encore de 15 milliards d'euros supplémentaires, en tout cas c'est ce qu'on entend. Qu'est-ce que ça laisse augurer du climat social et politique pour l'année prochaine, alors que nous serons, je le rappelle, en pleine campagne présidentielle quasiment dès la rentrée en septembre? Marie-Christine Monnoyer.
Ça ne va pas être terrible. Ça ne va pas être terrible parce que, effectivement, la campagne présidentielle peut être l'occasion de faire des propositions.
Un concours de démagogie, vous pensez?
Voilà, je crains bien que ce soit un concours de démagogie. Ce qui serait intéressant, c'est qu'au fond, il y ait une prise de responsabilité de la part, justement, des plus grandes entreprises, de la part des structures qui ont des moyens financiers. Et de dire, eh bien, Si Total disait, on est conscient qu'on a gagné beaucoup d'argent et on est conscient que le pays en a besoin, eh bien peut-être que les discussions au Parlement pourraient être différentes. Parce que la question, elle est là. Il est facile pour les responsables des différents partis de crier haut et fort en disant « il faut aller chercher l'argent dans les poches dans lesquelles il se trouve ». Il est logique qu'ils disent ça, et il est pourtant nécessaire qu'on arrive à trouver une solution pour une meilleure répartition. Parce que ce n'est pas uniquement des dépenses qu'il faut diminuer, il faut trouver des recettes. Et les recettes, elles se trouvent dans l'activité, qu'il y ait moins de chômage, qu'il y ait plus d'entreprises, qu'il y ait plus de succès à l'international. C'est là. Or, certains ont eu des grands succès. Ben, qu'ils nous en fassent profiter sur le plan financier et sur le plan des méthodes. Et peut-être que ça changera quelque chose à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Parce que sinon, on est coincé. Hein.
Alexandra Leliette, sur 2027, comment vous pensez que les choses vont se passer à partir de l'automne prochain, disons ?
Alors, on a la possibilité, avec ce grand rendez-vous qu'ont les Français avec la politique, de cranter quelque chose. Il ne faut pas nier qu'il y a une accumulation d'efforts budgétaires qui peut conduire à une fatigue sociale. Alors, c'est vrai que dire aux Français, tiens, vous êtes au dernier trou de la ceinture, eh ben, on va faire un trou supplémentaire, ça ne donne pas tellement envie d'y croire. Mais la contrainte budgétaire, elle peut fonctionner si elle est accompagnée d'une certaine perspective. Et là, on a ce grand rendez-vous qui nous permet d'aller sur des projets structurants et arrêter le correctif dont on parlait au tout début de notre échange. C'est-à-dire donner de l'espoir, dire la vérité sur les contraintes, dire la vérité sur la répartition avec un angle plus juste, mais avoir un projet qui soit lisible. Lisible sur le climat, lisible sur le volet social, sur cette vie qu'on peut avoir tous ensemble.
Sur la souveraineté énergétique.
Sur la souveraineté énergétique et sur des perspectives qui soient données au niveau mondial, parce qu'on ne va pas décider que pour nous, on va aussi décider pour notre place dans le monde de demain.
On va rester là pour ce premier débat. Bon, on verra si les annonces de Sébastien Lecornu sont suivies d'autres. C'est pas impossible dans les jours et les semaines à venir. Pour notre part, c'est le moment de la pause dans cette émission durant une petite vingtaine de secondes avant de nous retrouver pour un autre sujet et un autre débat. À tout de suite.
La mêlée de l'info, Éric Dupri.
Retour au direct avec mes deux invités, Marie-Christine Monnoyer, professeure des universités, membre de la chaire Jean Rodin à l'Institut catholique de Toulouse, et Alexandra Leliette, adjointe au maire de Toulouse, déléguée territoriale du MoDem Haute-Garonne. Mardi également, mais à l'Élysée, Emmanuel Macron a reçu le Premier ministre libanais, Nawaf Salam. Le chef de l'État a plaidé à cette occasion en faveur d'un accord entre Israël et le Hezbollah qui garantirait l'intégrité territoriale du Liban, en ajoutant toutefois qu'Israël devait renoncer à ses visées territoriales et que le Hezbollah devait être désarmé par les Libanais. Les deux hommes ont aussi évoqué la nécessité de changer les modalités d'intervention de la FINUL, la force intérimaire des Nations Unies au Liban. Emmanuel Macron a assuré que la France était prête à maintenir son engagement sur le terrain en cas de départ de la force onusienne. Et ce, alors, évidemment, on va avoir une pensée pour eux, que deux soldats français, le sergent Florian Montorio et le caporal-chef Anissé Girardin, ont été tués au combat dans une embuscade attribuée justement à un groupe du Hezbollah. Qu'est-ce que vous avez pensé des déclarations du président français à l'issue de cette rencontre? Et est-ce qu'elles vous paraissent conformes à ce que doit être la position de la France dans le conflit en cours au sud-Liban entre Israël et le Hezbollah? Alexandra Leliette.
Permettez-moi tout d'abord d'exprimer toutes mes pensées, mes condoléances aux familles, amis et frères d'armes des deux soldats français tombés cette semaine. Ces deux morts, et qui sont accompagnés de plusieurs blessés, provoquent chez chacun de nous beaucoup de tristesse, évidemment, mais beaucoup de colère, car rappelons-le, ces deux soldats, comme vous l'avez dit, étaient membres de la FINUL. Il s'agissait de casques bleus, de soldats de la paix, et à aucun moment les soldats casques bleus ne peuvent être visés et cibles d'attaques. C'est pour ça que j'espère vivement que les responsables seront trouvés, seront traduits devant la justice et seront très sévèrement punis. Cela n'est pas acceptable et rappelons qu'il s'agit là d'un crime de guerre. Un crime de guerre qui vise nos deux soldats français, mais un crime de guerre qui vise finalement toute la communauté internationale, parce que c'est à ce titre qu'ils allaient faire remplir leur mission donc, de paix. Concernant la finule, je pense que c'est un pilier essentiel de la stabilité au Liban du Sud. Mais pour aller plus loin, il faudrait rappeler quelles sont ses missions à la finule. C'est tout d'abord travailler sur le cessez-le-feu, mais c'est également accompagner le désarmement du Hezbollah, accompagner le retrait des troupes d'Israël du Liban, et enfin une mission très importante dont on ne parle pas assez, qui est cette mission humanitaire pour permettre donc le ravitaillement de certains villages. La position d'Emmanuel Macron mardi était une position qui est finalement assez conforme à la tradition diplomatique française dont on peut être extrêmement fier, celle de l'équilibre entre le droit international, celle du droit à la sécurité d'Israël, mais aussi celle de la souveraineté du Liban.
Marie-Christine Monnoyer, bon, qu'est-ce que vous avez pensé de l'intervention d'Emmanuel Macron et de ses déclarations, des positions qu'elles esquissent pour la France dans ce conflit?
Alors, je trouve qu'elle s'explique assez bien par l'histoire. Ça fait maintenant plus de 150 ans que la France est présente au Liban. Elle l'a été dans des circonstances extrêmement diverses, puisque la France avait de la part de la Société des Nations, après la Première Guerre mondiale, un mandat d'administration au Liban. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la France a agi beaucoup au Liban, aussi bien en l'aidant à se doter d'une constitution qu'à se doter d'équipements, à se doter d'institutions qui ont perduré même après l'indépendance du Liban en 1940. Donc au fond, l'histoire de la France et du Liban, elle est inscrite maintenant, aussi bien dans les livres que dans les pratiques. Et avant de lancer cette émission, nous évoquions, même au niveau de la région toulousaine, le fait qu'il y a une présence libanaise dans une communauté libanaise qui est importante à Toulouse. Et quand on rencontre des Libanais, eh bien, on est toujours impressionné par le nombre de ceux qui parlent un magnifique français. J'ai dirigé des thèses avec des étudiants libanais et j'ai toujours été impressionné par la qualité du travail, de la langue, de la culture des personnes libanaises que j'ai rencontrées. Donc, c'est vraiment une histoire ancrée, même si elle n'est pas connue exactement de tout le monde. Alors le deuxième point, et c'est sans doute lié, l'histoire de la finule et de la présence libanaise, de la présence française au sein de la finule, elle date de 1976. C'est-à-dire que là encore, on est presque dans de l'histoire. Et la présence française, le contingent français, est un contingent important au sein de la finule, même si il y a 46, je crois, ou 48 pays qui sont impliqués dans la finule, eh bien, le poids de la France est non négligeable. Et comme en plus, il y a une tradition de relations historiques, c'est évidemment un point important. Et lorsque le président Macron reçoit le président libanais, dans quelle langue il parle ? En français.
Oui.
Voilà. Donc, tout cela veut dire que on ne peut pas considérer que les propos du président de la République, cette fois-ci, il ne faut pas les sortir de ce contexte. Ce n'est pas la même chose quand on parle avec le Liban que lorsqu'on parle avec même un autre pays africain, enfin, ou avec un pays asiatique. C'est très différent. Donc, pour moi, ça, c'est fondamental et ça explique pourquoi il est difficile d'entendre que la France n'a pas le droit de participer aux discussions qui ont lieu actuellement à Washington entre le Liban et Israël et qu'au fond, là, on retombe sur cette espèce de magma incompréhensible qui est en train de se produire lié à cette guerre du Moyen-Orient. Lorsque le président de la République dit « il faut qu'on puisse participer et nous allons, avec d'autres pays européens avec l'Angleterre en particulier, nous organiser pour lorsque le détroit d'Ormuz ne sera plus fermé, bien c'est absolument fondamental. Donc il faut vraiment être présent et nous sommes présents et au fond nous subissons aussi les conséquences. Et comme dans la discussion de tout à l'heure, ben là il y a deux Français qui sont morts. Des jeunes Français, ils avaient 40 ans pour l'un et un peu moins pour l'autre.
Il y avait à peine plus de 30 ans à Nice.
Voilà,
à Nice,
donc on est vraiment dans quelque chose, là encore, qui nous touche beaucoup. Et quelque part, la problématique du Liban, elle est d'une complexité épouvantable. Et l'attitude d'Israël sur le Liban Sud, elle est quand même un peu difficile à entendre.
Alors, puisque vous évoquez cela, est-ce que vous croyez, d'une part, qu'Emmanuel Macron a le poids diplomatique pour convaincre Israël de, comme il le dit, renoncer à ses visées territoriales au Liban? Et d'autre part, est-ce que vous pensez que les Libanais sont en capacité de désarmer le Hezbollah? Alexandra Leliette.
Alors, quant à la capacité d'influence de la France, on en a parlé précédemment, elle est réelle. Et il faudrait se rappeler que, contrairement à ce que peut penser le dirigeant américain, on n'a jamais désarmé par la force. Un désarmement, c'est un désarmement qui est accompagné aussi d'un dialogue.
De négociation.
De négociation, de diplomatie, de soft power. On parlait de la francophonie, d'échanges nourris et surtout avec toutes les parties. Moi, je pense foncièrement, je sais que c'est plus tellement à la mode, mais que le multilatéralisme est indispensable pour répondre à ce genre d'enjeux. Certes, la France n'est pas autour de la table à Washington, mais c'est quand même grâce à la France que ces discussions ont lieu. Et l'influence, elle va continuer. Elle repose sur des positions de coalition, sur un échange nourri, sur le travail qui a été fait cette semaine par le président de la République, mais aussi un travail de longue haleine avec son actuel ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui s'est rendu à plusieurs reprises au Liban, mais également un autre ancien ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, qui fait un travail formidable, c'est Jean-Yves Le Drian, qui a été nommé il y a quelques années envoyé spécial de la France. Ce désarmement, faut pas oublier qu'il était en cours, qu'il avançait, qu'il y avait des améliorations tangibles qui se sont arrêtées net le 2 mars lors du combat, enfin, et du début de la guerre avec l'Iran, parce que tout ça est également à mettre en perspective avec le conflit entre les États-Unis et l'Iran, guerre à laquelle, rappelons-le, la France n'est pas partie.
Iran soutient du Hezbollah. Marie-Christine Monnoyer, vous y croyez, vous, au poids, encore une fois, parce que Emmanuel Macron a un poids suffisant, d'une part, pour convaincre les Israéliens, en tout cas, contribuer à convaincre les Israéliens à renoncer à leur visée territoriale au Sud-Liban. Et d'autre part, est-ce que vous croyez que les Libanais sont en capacité, comme le demande Emmanuel Macron, ils demandent que ce soit eux qui désarment le Hezbollah?
Je pense qu'un pays tout seul, la France en particulier, n'a pas le pouvoir d'eux. Parce que justement, les choses sont très compliquées. Les Israéliens disent, le Hezbollah nous envoie des missiles, des drones, etc., etc., donc on réagit. Je ne sais pas si mes sources sont justes, mais j'ai cru lire que le Hezbollah annonçait 100 000 combattants. On ne désarme pas 100 000 combattants avec un coup de sifflet bref. Alors, je dois avouer, je ne suis pas sûre de ce chiffre, mais enfin, je l'ai lu, je l'ai regardé de près, et je me suis dit que les choses étaient très compliquées. D'autant plus que, comme tout, c'est le parti de Dieu, le Hezbollah. Mmh. Comme tous les partis de Dieu, il a aussi des activités caritatives qui font que les Libanais non anti-israéliens bénéficient du Hezbollah et donc ne vont pas être complètement favorables à la perte du pouvoir du Hezbollah. C'est aussi pour ça que c'est épouvantablement compliqué. Parce que quand Israël reçoit des drones ou des missiles, je comprends qu'il veuille réagir, mais quand le quand Gaza recevait des, ou reçoit encore des missiles, etc., le Hezbollah est logique dans sa réaction. Donc au fond, si on n'arrive pas, grâce à de multiples interventions, à mettre tout le monde autour de la table, eh bien, le Liban ne pourra pas désarmer tout seul. Alors, comment un président des États-Unis peut-il avoir imaginé que les choses pouvaient se régler ainsi? C'est incompréhensible.
Alors, autre chose qu'a dit Emmanuel Macron, si la FINUL se retirait du Liban, vous l'avez rappelé, hein, Marie-Christine Monnoyer, elle est présente depuis près de 50 ans, à tel point que j'ai appris qu'il y avait des soldats philippins, casque bleu aujourd'hui, qui sont les petits-enfants de premiers soldats philippins qui y étaient il y a une cinquantaine d'années. Bon, c'est pour vous dire un peu la longue histoire que ça commence à être. Donc, si la FINUL se retirait, est-ce que la France devrait, comme il l'a annoncé, maintenir son engagement sur le terrain, et dans ce cas, bah, quelle ampleur faudrait-il lui donner à cet engagement de la France, Alexandra Leliette?
Un engagement français sur le terrain isolé n'est ni souhaitable ni soutenable. La seule solution, c'est celle du multilatéralisme, d'une réponse dans un cadre onusien. Je reviens là-dessus. Certes, c'est pas très à la mode, mais pourtant, le multilatéralisme sera la seule solution pour sortir de cette crise, par une présence militaire et un dialogue maintenu avec toutes les parties autour de la table.
Marie-Christine Monnoyer.
D'après ce que j'ai compris, il y a à peu près 10 000 hommes dans la FINUL. Alors, 10 000 hommes pour la France, ce n'est pas possible, évidemment. Donc, au fond, si la FINUL disparaissait, il faut reconstruire quelque chose autre. Actuellement, il y a, si j'ai bien compris, 600 Français au sein
oui, 6
de
à 700,
voilà,
oui.
600 à 6 à 700 au sein des 10 000. Donc évidemment, c'est important, mais c'est pas suffisant. Mais je pense que personne n'imagine que la France irait toute seule comme ça, en criant cocorico, j'arrive. Ça, c'est évidemment pas possible. Ce qui est intéressant, c'est justement la multiplicité des prises de parole et des prises de décision et la fermeté de certaines d'entre elles. Je comprends que pour le président du Liban, ce soit réconfortant d'entendre ce qu'a dit le président de la République française. Je pense aussi qu'il est aussi heureux, même si ça ne diminue pas le nombre des bombes qu'il reçoit sur la tête, d'entendre les Anglais et les Allemands dire à peu près la même chose. Et c'est peut-être une des façons de poursuivre la force européenne, le courant européen, que d'être capable de dire ça, même à un moment qui est presque caricatural dans sa violence et dans ses résultats.
Il y a une autre annonce qu'a fait Emmanuel Macron. Il a reconnu que c'était une interrogation légitime concernant la possibilité de suspendre l'accord d'association qui existe aujourd'hui entre l'Union européenne et Israël, si ce dernier continue cette politique sous-entendue d'expansion territoriale sur les terres de ses États voisins, qui contrevient à son histoire, ce sont les mots d'Emmanuel Macron, et en particulier au Liban. Alors est-ce que vous considérez aussi qu'il faudra aller jusque-là si les menées de l'armée israélienne devaient se poursuivre? Alexandra Leliette.
Alors la suspension de l'accord, c'est un levier qui est lourd, certes, mais qui est réelle. Elle doit pouvoir être utilisée, pas seulement de façon symbolique, mais comme un véritable levier. Pour moi, la diplomatie, c'est important, je vous en ai parlé, il est fondamental de maintenir le dialogue, mais maintenir le dialogue, ça ne signifie pas ne pas utiliser de véritables outils et leviers de pression. Et cet accord UE-Israël en fait partie. Et oui, il faudrait pouvoir envisager sa suspension en cas de répétition, de violation grave du droit international.
Alors ce serait évidemment un coup de tonnerre si on en arrivait là. Marie-Christine Monnoyer.
Étant donné que les violations graves sont permanentes et que je suis beaucoup moins diplomate que ma voisine, je crois qu'il est nécessaire de suspendre.
Donc il faut le faire, selon vous,
sans attendre. Bah, le plus vite possible.
En tout parce cas, qu'il y a poser un moment, ça comme une limite. Bon,
oui. Il y a un moment où c'est plus possible. Quand vous regardez les destructions qui sont faites au Liban, elles sont sans commune mesure avec les destructions que subit Israël du fait du Hezbollah sur son territoire. Et ça, c'est pas un partout balle au centre. Hein. C'est vraiment beaucoup trop lourd et sans aucune attention aux effets sur les populations. Alors, comme on a vu ce que ça donnait à Gaza, eh bien, on voit ce que ça donne au Liban. En fait, au-delà des limites, il n'y a plus de limites.
Bon, je pense qu'il y aura d'autres déclarations et prises de position d'Emmanuel Macron sur cette épineuse question du Liban dans les jours à venir. D'ailleurs, aujourd'hui même, il a demandé à ce que les pays de la région puissent participer aux négociations entre le Liban et Israël. En attendant, nous, on va terminer bientôt cette émission. Il nous reste un tout petit peu de temps pour partager avec nous vos coups de gueule ou vos coups de cœur du moment. Alexandra Leliette, on vous écoute. Vous avez bien quelque chose.
Alors, bah, c'est vrai que c'est une actualité qui n'est pas de cette semaine, mais simplement rappeler la libération des deux otages français qui étaient quand même, sur le mois passé, une nouvelle qui nous a tous fait beaucoup de bien.
Les otages français au Liban. Et je rappelle que Christophe Glaize, lui, est toujours retenu en Algérie et qu'il serait bien aussi de pouvoir le faire sortir, le ramener en France auprès de ses proches. Marie-Christine Monnoyer.
Alors moi, j'ai, pour une fois, un coup de cœur et un coup de gueule. J'ai un coup de cœur parce que j'ai trouvé absolument extraordinaire le voyage du pape en Algérie et en Afrique noire. Les phrases qui ont été dites dans chacun des pays étaient extraordinairement pensées, analysées et faisaient plaisir à entendre. D'abord parce que c'est toujours bien d'entendre le pape dire des choses intéressantes, ça. Et surtout bien ciblé, hein, dans un pays dans lequel il est, et de le dire avec force. Et j'ai adoré entendre dire « Je n'ai pas peur de M. Donald Trump ». Ça fait du bien. Par contre, j'ai un coup de gueule. Quand j'ai entendu ce matin que l'université de Strasbourg avait décidé que les étudiants africains qui n'avaient pas payé les 4000 euros de droits théoriquement maintenant demandé, eh bien, ne pourraient pas passer leurs examens de master, alors que, comme vous le savez, nous sommes le 23 avril, c'est-à-dire qu'ils ont passé toute l'année, qu'ils ont préparé leurs examens, etc., et qu'on va leur interdire de présenter leur master parce qu'ils n'ont pas payé leurs 4000 impôts. Je trouve que l'université de Strasbourg mériterait de se poser un certain nombre de questions. Et ayant été enseignante à l'université de Strasbourg, je le regrette profondément.
Cette 227e mêlée d'infos est terminée. Merci infiniment à toutes les deux d'y avoir participé. Merci aussi à Coraline Camebrac, la réalisatrice de cette émission. Le podcast est disponible et téléchargeable dès maintenant sur le site web de Radio Présence. Merci enfin à tous nos fidèles auditeurs et auditrices. Rendez-vous jeudi prochain. À bientôt. We'll be right back.